Les déposants de la coopérative d'épargne de crédit Saint-François-Xavier de Kikwito réclament la Banque centrale du Congo 400 millions de francs congolais. Cet argent était logé dans un compte de Banque centrale du Congo Kikwito et depuis la liquidation de cette coopérative, les déposants s'inquiètent. Nous parlons aussi dans cette émission de cette autre coopérative minière qui s'installe en territoire de Wamba à Kisangani. L'installation aujourd'hui de la coopérative minière Congo Riche a bénéficié de l'appui de l'Observatoire des ressources minières de l'Ouélé. Et l'invité de ce premier numéro 2017 de Écho d'économie sur votre radio, c'est le professeur Bobo Akayembi. Avec lui, nous allons parler de l'édition revue du droit économique congolais, l'ouvrage qu'il vient de publier. Voilà pour le titre, messieurs, dames. Bienvenue à cette émission numéro 1, Écho d'économie sur votre radio pour cette nouvelle année. Le collectif des épargnants de la coopérative d'épargne de crédit Saint-François-Xavier de Kikwit sont inquiets. Ils demandent à la Banque centrale du Congo de leur restituer près de 400 millions de francs congolais. Ce fonds était logé sur ordre des auditeurs de la Banque centrale du Congo dans un compte à l'agence de la BCC Kikwit. Le collectif d'épargnants dit ne plus avoir de nouvelles sur ce dépôt après la liquidation de cette coopérative. Et du coup, c'est l'inquiétude qui a gagné les épargnants qui disent ne plus savoir à qui s'en remettre pour le règlement de cette question. Nous en parlons avec vous, Fabien Kambinzi.
C'est depuis 2010 que la coopérative Saint-François-Xavier enregistre des difficultés de trésorerie au grand étonnement de ses membres. Ceux-ci croient à un détournement de leurs épargnes par le dirigeant de la coopérative. C'est pourquoi un comité de crise a été mis en place par le membre en vue de faire un état des lieux de la situation réelle de la coopérative. C'est à ce moment précis que ce comité de crise mandaté par le collectif des épargnants prend la chose en main. Elle a décidé de relancer la coopérative moyennant une seconde mise de fonds sur recommandation de l'ancien gouverneur Jean-Claude Massangou. Selon le président de ce comité de crise, Henri Nguenda, c'est au moment où les membres avaient repris à alimenter leurs comptes, y compris les parts sociales des membres du comité de crise, logés à la BIAC que débarquent les autres auditeurs de la Banque centrale à Kikwit. Aujourd'hui, la colère de ce collectif des épargnants de cette coopérative repose sur la position de la commission de la BCC venue de Kinshasa. Celle-ci a révélé au comité des épargnants que la Banque centrale du Congo n'est pas en mesure de liquider ou de remettre la coopérative dans ses droits, mais c'est plutôt les débiteurs. M. Mbia Alphonse, chef de la délégation des liquidateurs, précise en outre qu'ils sont en train de travailler pour voir comment récupérer cet argent auprès des débiteurs afin de remettre ces épargnants dans leurs droits. Kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Ouélé, nous parlons de l'installation ce lundi dans le territoire de Wamba de la coopérative dénommée Coopérative minière Congo Riche. Cette coopérative a bénéficié de l'appui de l'Observatoire des ressources minières de l'Ouélé, un organe de l'Université de l'Ouélé. Qu'est-ce qui explique la création de cette coopérative et quelles sont les attentes des initiateurs? Explication avec Jacques Mokonkole.
3 mois après sa création, la coopérative minière Congo Riche s'installe sur le terrain ce lundi 9 janvier 2017. Sa zone d'exploitation est située dans la chefferie Catalico, précisément dans la localité Bonzouzou, à 125 km d'Issirou. Grâce à un appui technique et institutionnel de l'Obéry Ouélé, Congo Riche est devenu aujourd'hui opérationnel. Le recteur de l'université de l'Ouélé, le professeur Roger Gaïssé, explique en quoi consiste cet appui.
C'est pour les aider un peu à s'installer, à leur apprendre comment on doit installer une coopérative, comment ça doit se gérer et comment ils peuvent s'implanter. Et l'appui technique, s'il s'agit de devoir, par exemple, on vient de l'éditer avec le groupe électrogène, un ordinateur, mais aussi le matériel pour installer une menuiserie.
Congo Riche a résolu de se livrer à une exploitation artisanale dès lors dans un ancien site minier datant de l'époque coloniale. Selon son président Jean Karoumé, cette coopérative a vu le jour dans les soucis de canaliser la production aurifère vers les comptoirs agréés et d'aider l'État à assurer la transparence et la traçabilité des matières premières. Par ailleurs, ailleurs. Il estime que ce travail profitera non seulement aux exploitants artisanaux, mais qu'il aura également une incidence sur le développement socio-économique du milieu.
C'est pratiquement un des secteurs qui fonctionne le mieux maintenant. Et là où nous sommes implantés maintenant, il y a un grand village qui est né, bon, qui n'est pas encore bien constitué, mais il y a un grand village, il y a déjà une bonne agglomération ici. Et nous espérons qu'avec la naissance de différentes coopératives, ça va améliorer la condition des gens d'ici, l'habitat, d'autres.
Signalons qu'Obéry Ouélé a bénéficié d'un financement de l'Union européenne. Jacques Moukonkolé, qui s'en gagne pour Éco d'économie.
La Direction générale des douanes et accises instruit ses directeurs centraux et provinciaux de veiller à l'application de la mesure interdisant l'importation de la viande de porc en provenance de la Belgique. C'est une décision qui remonte au 30 décembre dernier, décision prise par le ministre du Commerce extérieur. Cette mesure serait liée à une alerte de l'Union européenne sur la présence d'un composant chimique dangereux dans une cargaison de viande qui aurait pu transiter par la Belgique en direction de l'Afrique centrale. Le ministre du Commerce extérieur confirme la nouvelle et à la Fédération des entreprises du Congo, on demande au ministre du Commerce extérieur de préciser exactement l'origine de cette viande au lieu d'utiliser le terme en provenance de la Belgique. La FEC veut avoir cette précision pour ne pas pénaliser les opérateurs économiques qui importent essentiellement leurs marchandises de la Belgique. Je vous l'ai dit au sommaire de cette émission, la version revue et actualisée du droit économique de la République démocratique du Congo est disponible. C'est un ouvrage réalisé par le professeur Bobo Wakayembe, chef de département à l'Université protestante au Congo. Parmi les matières expliquées dans cet ouvrage, l'auteur insiste sur le partenariat public-privé, facteur de développement actuellement plus utilisé à travers le monde. Professeur Mathias Bobo Wakayembe, bonsoir, nous vous recevons dans cette émission pour parler de ce volume 2 du droit économique congolais que vous venez de publier. Dites-nous, professeur, cet ouvrage vient répondre à quel besoin?
Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas du deuxième volume, mais il s'agit de la réédition, la deuxième édition d'un ouvrage que j'ai publié il y a plus de 15 ans d'ailleurs.
Et pourquoi vous l'actualisez aujourd'hui, il y a 15 ans après?
Je l'actualise parce que mais la matière du droit économique a beaucoup évolué et dans notre pays. Il y a des évolutions qui devraient normalement nous amener à actualiser les ouvrages chaque année. Donc je voudrais dire que c'est un ouvrage tout d'abord qui sert pour la formation des étudiants. Vous savez qu'à la faculté de droit, dans toutes les universités, il y a un département de droit économique. D'ailleurs, je suis chef du département de droit économique à l'Université protestante au Congo. Il y a plusieurs cours qui font partie de cette filière-là. Donc, c'est un cours qui intéresse les étudiants, mais au-delà, il intéresse beaucoup de gens. Il intéresse les gens du gouvernement, il intéresse plusieurs ministères, comme le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère du Portefeuille. Et d'autres ministères, parce qu'en fait, c'est un ouvrage qui montre de quelle manière l'État contribue aussi de son côté à développer l'économie d'un pays, de notre pays. En fait, pour développer l'économie de notre pays, il y a la part des privés, notamment les opérateurs économiques qui sont regroupés dans plusieurs associations, comme vous le savez, mais il y a aussi la part de l'État. Donc, comment l'État procède pour intervenir dans la situation économique.
Et c'est ce que dit l'ouvrage.
C'est ce que dit l'ouvrage.
Parmi le rôle et fonctions que doit jouer l'État pour développer l'économie du pays, vous, on peut retenir quoi, professeur?
Bon, il faut retenir plusieurs choses. Hein. Tout d'abord, les modalités d'intervention de l'État sont diverses. Il y a des interventions qui sont directes et des interventions qui sont indirectes. Parmi les interventions directes, je dirais, donc qui ont un impact direct sur l'économie sociale, je dirais par exemple l'établissement de nouveaux taux d'impôt ou bien lorsque il dit on va réduire le coût de création d'une entreprise à travers notamment le guichet unique, comment on va réduire le nombre de services dans les frontières, ou bien on va réduire les taxes. Tout ça, ce sont des modalités directes d'intervention, mais il y a d'autres modalités indirectes, si on peut dire. Mais c'est lorsque l'État met en place la politique de sécurité des personnes et des biens. Cette politique de sécurité des personnes et des biens incite indirectement les opérateurs économiques à procéder, et à pouvoir, disons, investir, même si on peut dire. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, inversement, s'il n'y a pas de sécurité, les gens ne vont pas investir.
Ou investir, non.
Oui, oui. Donc, également, la stabilité du cadre macroéconomique. On voit bien, quand il y a la stabilité, par exemple, des prix, et que les opérateurs économiques peuvent être très motivés pour investir, parce que ça leur donne une prévisibilité dans les ventes qu'ils vont faire. Et inversement, quand il n'y a pas de stabilité, les gens achètent moins et ce n'est plus intéressant pour pouvoir investir. Donc il y a des interventions qui sont directes et des interventions qui sont indirectes. Tout ça, il y a des interventions qui sont globales, il y en a qui sont sectorielles, qui ne visent que des secteurs bien déterminés, ou bien des interventions qui ne visent que des entreprises bien déterminées. Et ça, nous l'avons fait d'ailleurs. On le fait d'ailleurs dans le cadre des investissements, de signer des accords d'agrément des investisseurs spécifiquement. Telle entreprise est agréée, telle entreprise est agréée pour être motivée par l'État à pouvoir mettre en place des investissements. D'autres interventions sont unilatérales, donc l'État décide d'une manière unilatérale, mais il est souhaitable aujourd'hui de ne pas décider d'une manière unilatérale, il faut le faire d'une manière consensuelle.
Avec qui, professeur?
Avec les opérateurs économiques. Quand vous voulez décider dans le domaine économique, par exemple, vous voulez mettre en place de nouvelles lois, par exemple la TVA, il ne faut pas le faire comme ça de manière unilatérale. Il faut appeler les personnes qui vont appliquer la TVA, qui vont l'exécuter, avoir leur point de vue sur cette loi-là et prendre en compte ce point de vue, parce que ça ne sert à rien d'imposer des choses aujourd'hui sans être certain qu'elles vont être appliquées.
Merci professeur Mathias Bobo Akayimbi. Nous allons continuer cet entretien dans un autre créneau. Et c'est la fin de cette émission sur votre radio. Très bonne suite de programme et très bonne soirée en compagnie de programme de Radio Okapi.